Radio Potager, l'émission de celles et ceux qui s'engagent pour le vivant. Terre et Humanisme s'invite sur Fréquence 7 pour parler d'agroécologie, d'alimentation, de jardin, mais aussi de souveraineté alimentaire, de transition écologique et de solutions aujourd'hui pour inspirer le monde de demain. Interviews, rencontres, échanges, discussions, embarquez pour un voyage au cœur des initiatives engagées pour le vivant. Bonjour à toutes et à tous. C'est la rentrée, on se remet dans le bain et après 2 ans d'émission sur le jardin potager en agroécologie, notre émission Radio Potager évolue un peu, comme vous l'avez entendu dans l'intro. Alors oui, on a envie d'ouvrir le champ des possibles, d'élargir un peu le sujet, de parler de projets, d'initiatives, pourquoi pas de politique, de citoyenneté, d'international, de relations nord-sud, d'agriculture, de solutions et même de freins et d'opposition à l'évolution de nos pratiques agricoles. Tout un programme. Et pour commencer en douceur aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Inès Gerbeau, qui est chargée de projets agroécologie dans le monde arabe, chez Terre et Humanisme. Salut Inès.
Salut Léa.
Alors on va commencer tout doucement par une petite présentation. Donc est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes ton profil et tes missions dans le cadre de ton travail ?
Oui, donc... Je suis chargée de projet, c'est-à-dire que je suis un peu la personne qui met de l'huile dans la machine. Je suis des pays du monde arabe et donc je les aide à diffuser l'agroécologie sur leur territoire. Ça peut prendre diverses formes. Il y en a qui font des formations, d'autres qui vont faire des événements de sensibilisation pour le grand public, pour les enfants. Il y a des échanges de semences paysannes, de l'événementiel, etc. Après, on est du coup sur la diffusion de l'agroécologie, qui est du coup vraiment une technique écologique de pratique du vivant, améliorer la biodiversité au jardin, etc., mais aussi amélioration sociale et économique. Donc il y a tout un volet, par exemple une ferme qui va aussi faire l'effort de payer plus que la norme, d'embaucher des réfugiés ou des personnes en situation de difficulté, et au niveau économique, qui va essayer de vendre ses produits de manière locale plutôt que de faire de l'exportation à l'autre bout du monde, etc. Voilà, donc la vision agroécologique, c'est vraiment une vision plus holistique du système de production en général.
Oui, c'est pas simplement les pratiques agricoles, ça inclut aussi l'humain.
Voilà.
Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous dire dans quel pays est-ce qu'il y a des projets, en fait, qui sont accompagnés ?
Voilà, donc moi, je travaille sur 6 pays. 3 pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et 3 pays du Proche-Orient, donc l'Égypte, la Palestine et le Liban. Et donc j'accompagne chaque pays individuellement, plus un réseau de pratiques en fait au niveau de ces 6 pays, parce qu'ils ont quand même une langue, une culture et un contexte pédoclimatique, comme on dit en langage un peu plus technique, mais donc un climat et un sol assez similaires.
Et quand tu dis que tu accompagnes des pays, en fait, tu n'accompagnes pas tout le pays. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tu accompagnes des partenaires ?
Voilà. Dans chaque pays, on a une ou deux, selon les pays, structures locales avec lesquelles on a des partenariats. Donc, c'est vraiment des associations locales qui connaissent super bien leur terrain. Il y en a qui sont implantées depuis plus de 25 ans dans leur territoire et qui donc mettent des projets à leur échelle de diffusion de l'agroécologie. La plupart sont des bénévoles, donc c'est des structures qui sont encore petites et qui demandent à se développer grâce à l'appui Terre et Humanisme.
Et l'appui, il consiste en quoi, du coup ?
Donc on peut les aider de manière financière grâce à des fonds qu'on lève en France. Et sinon, on les aide à monter des projets, à construire leurs projets, à communiquer sur leurs projets, à échanger entre eux. Donc des outils qui ont pu être développés en Tunisie peuvent être utiles à une structure qu'on accompagne en Égypte. Et voilà, ainsi, en fait, ils peuvent cumuler les expériences de chacun et être plus forts en groupe.
D'accord. Et aujourd'hui, tu dirais que les enjeux principaux en termes d'alimentation et d'agriculture sur ces territoires-là sont lesquels ? Est-ce que c'est les mêmes qu'en France ? Est-ce que c'est d'autres enjeux ?
Il y en a qui se recoupent avec la France, en effet. Donc, par exemple, On va voir le problème de l'accès aux terres. On est sur des terrains fonciers qui appartiennent à des grands propriétaires terriens ou qui sont très chers et donc inaccessibles à des paysans qui voudraient se lancer. On a bien sûr le problème de la souveraineté alimentaire. En fait, on est sur des pays qui ont pas mal misé sur la monoculture et l'exportation. Et donc, ils se retrouvent avec... manque de diversité alimentaire où en fait ils n'ont pas de quoi remplir une assiette au complet, donc ils vont faire du blé à outrance mais pas du tout avoir d'autres produits. Et après, par rapport à la France, une grosse différence quand même, c'est qu'on est sur des mouvements naissants au terme de demande en fait en produits agroécologiques et sains. Donc dans les capitales, les gens commencent à être plus sensibilisés en demande de ça, mais quand on va dans des régions plus rurales ou quoi, ils n'ont pas forcément eu vent des effets nocifs des produits des intrants chimiques, etc. Ils ne voient pas la différence, donc il n'y a pas forcément une demande encore énorme en termes de produits agroécologiques.
Donc ça sert aussi à développer un peu ça, le fait de les accompagner en fait. Il y a aussi de la sensibilisation des citoyens.
C'est ça. On accompagne autant le côté producteur que le côté vente et sensibilisation des consommateurs parce que c'est vraiment main dans la main, quoi. Donc s'il n'y a pas les débouchés, ça ne sert à rien finalement de produire en agroécologie. Donc ça va être la mise en place de magasins de producteurs, l'intervention dans des écoles, faire de la communication grand public sur le sujet. Voilà.
Ok, super. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Je crois que tu nous as choisi un morceau. Est-ce que tu peux juste nous présenter rapidement ce morceau ?
Oui, vous allez écouter une chanteuse tunisienne, une jeune chanteuse tunisienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nour Arjoun.
اللي رش ليهم حفايا واللي تعبوا بالمكتوب نحلف بمين البحارة بالشمس والريح والصحاب نحلف بالموجة الغدارة لا لا على حبك مكتوب لا لا من من صعبك عليا نكتب اسمك بالدم في ايديا ونرجع لك ديما 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 مهما زرعوا لي الشوك في ثنية مهما ليا حب تهرب بيا ونرجع لك ديما 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 ونسقي زرعك بدموع عينيا مهما خنتيني عزيز عليا نحلف بدين الفلاحة اللي تولدت في الشوك والتراب ولدت الخبز بجراحة وغلبتها الدهر الكذاب
De retour sur Fréquence 7 dans l'émission Radio Potager avec Inès qui est chargée de mission agroécologie dans les pays du monde arabe. Alors Inès, moi j'avais une autre question à te poser. En fait, les pratiques agroécologiques, moi je me dis, on n'a rien inventé avec ces pratiques. En fait, c'est des pratiques des paysans depuis toujours dans les zones rurales, dans le monde. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 80% de l'alimentation produite sur la planète qui l'est par des petits producteurs. Pourquoi est-ce que les paysans des pays du monde arabe que tu accompagnes ont délaissé ces pratiques, en fait ?
Alors, très bonne question. En fait, on retrouve ce qu'on peut observer aussi en Europe, c'est-à-dire que il y a un peu une image du progrès qui consiste à avoir une ferme équipée de plein de tracteurs. Après la Révolution verte, c'était quand même on est sur des métiers qui sont durs au niveau physique, et du coup ils ont été incités à utiliser des produits phytosanitaires qui en plus n'étaient pas chers. Donc voilà, ils sont mis à utiliser ça, et aujourd'hui on est trois générations plus tard, et c'est vrai que ils ont oublié les techniques ancestrales. Donc ça se sait encore que le grand-père faisait comme ça, et il remarque bien que ça avait une utilité. Il y en a qui ont conservé le savoir. Mais voilà, petit à petit, ça s'est quand même perdu. Et un signe quand même positif, c'est qu'aujourd'hui, on voit que avec la contrainte financière, en fait, la crise, par exemple, économique qui est arrivée au Liban, la même chose en Égypte, il y a des producteurs qui n'ont plus les moyens de s'acheter des produits phytosanitaires. Et donc, ils sont tournés vers certaines de nos structures partenaires pour apprendre à faire leur propre compost, développer leur biofertilisant, etc. Donc, en fait, par la force des choses, ils reviennent à des pratiques ancestrales plus naturelles.
Ok. J'ai une petite question annexe. Le bio, ça existe dans ces pays-là ? Est-ce qu'il y a un label ?
Alors, l'histoire des labels, c'est encore... disons qu'il y a certains labels qui sont payants. Donc, ça existe, mais tout le monde n'a pas la capacité de se le payer. Et du coup, ils font fi du label, finalement, et ils s'organisent entre eux. Il y a des pays comme le Maroc qui ont beaucoup misé sur le bio et en fait qui nourrissent l'Europe. Donc la plupart du bio marocain se tourne vers un marché européen. Et donc les populations locales n'en profitent pas malheureusement parce que c'est plus rentable de le vendre à l'étranger. Mais donc oui, ça existe. Après, on peut être sur du bio mais intensif, donc qui certes n'utilise pas de produits phytosanitaires mais qui épuise tout de même les sols. Voilà, donc ce que j'expliquais, la différence entre bio et l'agroécologie au début de l'émission. Mais c'est déjà bien s'il y a un mouvement bio qui se génère dans certains pays. Voilà, c'est l'ouverture à manger plus sain, etc.
Mais on peut le rendre... Enfin, il est perfectible, quoi.
Ouais.
OK. Alors, on sort un tout petit peu du sujet de l'émission, mais je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté, puisque c'est encore de l'actualité chaude. Donc, il y a eu un séisme au Maroc le 8 septembre. Et je voulais savoir, est-ce que, au niveau de nos partenaires marocains, est-ce que ça a changé quelque chose pour eux, cet événement dramatique qui a eu lieu ? Et est-ce qu'il y a un impact sur les projets agroécologiques qui sont menés au Maroc ?
Ouais, donc au Maroc, on accompagne deux structures. J'ai tout de suite contacté nos collègues qui étaient vraiment choqués. Et en fait, on a une structure qui est dans une zone qui a été particulièrement touchée, donc migration et développement, dans la zone montagneuse du Sirois et la province de Taroudant. Donc eux, ils ont décidé de mettre en pause leur programme justement agroécologique, et ils ont immédiatement mobilisé leurs camions, leurs équipes pour fournir des citernes d'eau, des matelas, en fait des biens de première nécessité suite au séisme. Voilà, et ils reprendront dans quelques semaines quand les choses seront revenues un peu plus à la normale.
Donc là, c'est de l'urgence et finalement, voilà. Le reste des projets est un peu mis en stand-by.
Bah ouais, ça paraît anachronique de faire quelque chose comme si de rien n'était. En fait, c'est plus possible, les routes étaient coupées. Voilà, l'humain d'abord et la reconstruction sera importante. On essaiera de faire avec justement des matériaux écologiques et reconstruire de manière pérenne.
Et on leur envoie toutes nos pensées, puisque c'est un moment dramatique. Merci Inès. Est-ce que tu veux conclure par quelque chose sur l'agroécologie ou sur ton travail avec ces pays-là ?
Ben oui, je souhaite bien sûr que de voir ce mouvement continuer, autant en France et dans les pays que j'accompagne. C'est vraiment des initiatives, je vois, hein, qui réchauffent le cœur autant des paysans qui la pratiquent que des consommateurs qui sont trop contents de pouvoir enfin trouver des produits. Voilà, quand tu vas sur un premier marché bio ou agroécologique au Maroc, c'est sûr que les gens ils sont super contents en fait de pouvoir trouver ça. Donc je souhaite voir ce mouvement grandir.
Super, merci beaucoup. Et du coup, j'en profite pour dire merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission. Merci à Fréquence 7 et à Nico à la technique, et puis à Fréquence 7 de nous accueillir dans son studio. On vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission, et en attendant, vous pouvez aussi retrouver tout plein d'infos sur l'agroécologie ou le jardinage au naturel ou l'alimentation en général en allant farfouiller un peu sur notre site internet terre-humanisme.org. Merci Inès et merci à tous. Et
merci,
tous.
À bientôt.
À bientôt. Oh.